Salle d'autopsie 4. Il fait tellement noir que pendant un moment, moment d'une longueur indéterminée, je me crois encore inconscient. Puis, peu à peu, il me vient à l'esprit que lorsqu'on est inconscient, on n'éprouve pas la sensation d'un mouvement dans l'obscurité, sensation accompagnée d'un bruit léger et rythmé qui ne peut être qu'un grincement de roue. J'ai également une sensation de contact, de la nuque au talon. Je sens aussi une odeur, qui pourrait être de caoutchouc ou de vinyle. Ce n'est pas être inconscient, ça. Il y a quelque chose de trop... De trop quoi ? De trop rationnel dans ces sensations pour que ce soit un rêve. C'est quoi alors ? Qui suis-je ? Et qu'est-ce qui m'arrive ? L'agaçant grincement de roue s'interrompt enfin et je sens que je ne bouge plus. Le truc qui sent le caoutchouc émet un craquement. Une voix s'élève. « Laquelle, ils ont dit ?» Un silence. Une autre voix. « La 4, je crois. Ouais, la 4. » Nous nous remettons à bouger, mais plus lentement. J'entends à présent, tout juste audible, le chuintement de chaussures à semelles souples, des chaussures de sport, peut-être. Les propriétaires des voix sont les propriétaires des chaussures. Ils m'arrêtent à nouveau. Un coup sourd, suivi d'un bruit léger de souffle. Le bruit d'une porte ayant des gonds pneumatiques, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai cru crier, mais ce n'était que dans ma tête. Mes lèvres n'ont pas bougé. Je les sens. Je sens aussi ma langue, posée dans ma bouche comme une taupe frappée d'engourdissement. Mais je ne peux bouger ni les unes, ni l'autre. Le truc sur lequel je suis étendu se remet à se déplacer. Un lit à roulettes ? Oui. Une civière, en d'autres termes. J'ai déjà pratiqué, il y a bien longtemps, au cours de la petite aventure merdique de Lyndon Johnson en Asie du Sud-Est. Je comprends que je suis dans un hôpital, qu'il m'est arrivé quelque chose, un truc dans le genre de l'explosion qui m'a presque fait passer l'arme à gauche 23 ans auparavant, et qu'on va m'opérer. Cette idée appelle beaucoup de questions. Et de questions raisonnables pour la plupart, sauf que je n'ai mal nulle part. S'il n'y avait le désagrément mineur d'être mort de trouille, je me sentirais même parfaitement bien. Mais si ce sont des aides-soignants qui me conduisent en salle d'op, comment se fait-il que je ne puisse rien voir, que je ne puisse parler ? Une troisième voix, par ici les gars. Mon lit roulant est poussé dans une nouvelle direction. Et la question qui ne cesse de retentir dans ma tête est celle-ci. Dans quel merdier me suis-je encore fourré ? Est-ce que ça ne dépend pas de qui tu es ? Autre bonne question, à laquelle je me rends cependant compte que je peux répondre. Je m'appelle Howard Cottrell. Je suis courtier en bourse, et certains de mes collègues m'ont surnommé Howard le Conquérant. Deuxième voix, juste au-dessus de ma tête. Vous êtes ravissante aujourd'hui, Doc. Quatrième voix, féminine, ton sec. Toujours agréable de vous faire de l'effet, Rusty. Pourriez pas accélérer un peu ? La babysitter m'attend à 7 heures. Elle s'est engagée à manger avec ses parents. M'attend à 7 heures. M'attend à 7 heures. C'est peut-être encore l'après-midi, alors. Ou le tout début de soirée. Et il fait noir. Noir comme dans un puits de mine, noir comme dans le cul d'une mule, noir comme par une nuit sans lune en Perse. Et qu'est-ce qui se passe ? D'où je sors ? Qu'est-ce que je fabrique ici ? Pourquoi n'ai-je pas 3 téléphones autour du cou ? Parce que c'est samedi, murmure une voix qui vient de très loin. Tu étais... Un bruit. Wack. Un bruit que j'aime. Un bruit pour lequel je vis plus ou moins, le bruit de... De quoi ? D'un club de golf, pardi. Un club de golf entrant en contact avec la balle posée sur le tee. Je la regarde filer dans le bleu. On me prend par les épaules et les mollets, et on me soulève. L'effet est affreux et j'essaie de crier. Aucun son ne sort de ma bouche. Ou alors, un son tout petit, un minuscule couinement bien moins fort que celui produit par les roues en dessous de moi. 3 fois rien, à moins que ce ne soit mon imagination, tout simplement. Je suis balancé dans les airs, prisonnier d'une enveloppe totalement obscure. « Hé, ne me laissez pas tomber, j'ai le dos fragile, essayais-je de dire. » Mais une fois de plus, ni mes lèvres ni mes dents ne bougent, et ma langue reste prostrée dans ma bouche, pas simplement engourdie, mais morte. Et voici que me vient une pensée effroyable, une pensée qui hisse ma terreur à un poil de la panique totale. Et s'ils me mettent à l'envers, et que ma langue dégringole au fond de ma bouche et bloque ma trachée artère, je ne pourrai plus respirer. C'est bien ce qu'on veut dire quand on parle d'avaler sa langue, non ? Deuxième voix. Rusty. Il va vous plaire celui-là, Doc. Il ressemble à Michael Bolton. La femme docteur. Qui c'est ? Troisième voix. Celle d'un homme jeune, peut-être même celle d'un adolescent. Un chanteur de charme blanc qui voudrait nous faire croire qu'il est noir. Mais à mon avis, ce n'est pas lui. La réflexion est suivie de rires auxquels se joint la doctoresse, mais de manière un peu réservée. Et, tandis que l'on me pose sur ce qui paraît être une table rembourrée, Rusty lance une nouvelle vanne. On dirait bien qu'il a un numéro parfaitement rodé. Mais je n'ai pas le temps de me désopiler, brutalement saisi d'un sentiment d'horreur. Je ne vais pas pouvoir respirer si ma langue obstrue ma trachée artère. Voilà ce qui vient de me traverser l'esprit. Mais est-ce qu'au moins je respire en ce moment ? Et si j'étais mort ? Et si la mort, c'était ça ? Ça cadre. Ça cadre très bien, avec une aisance toute prophylactique. L'obscurité. L'odeur de caoutchouc. Aujourd'hui, je suis Howard le Conquérant, agent de change extraordinaire, terreur du country club municipal de Derry. Un habitué de ce que l'on connaît dans tous les parcours de golf du monde sous le nom de 19e trou. Mais en 71, je faisais partie d'une équipe médicale de secours dans le delta du Mékong et n'étais qu'un gosse apeuré qui se réveillait parfois les yeux mouillés d'avoir rêvé aux chiens de sa famille. Et tout d'un coup, je sais ce que sont ces sensations. Cette odeur. Seigneur Dieu, je suis dans un sac à viande pour macabre. Première voix. Vous voulez bien me signer ça, Doc ? Appuyez fort, c'est en 3 exemplaires. Grincement d'une plume forçant sur le papier. J'imagine le proprio de la première voix tendant une planchette à pince à la femme médecin. Oh Seigneur Jésus, faites que je sois pas mort. Voilà ce que j'essaie de crier, mais rien ne sort. Pourtant, je respire, pas vrai ? Je ne me sens pas respirer et pourtant mes poumons ont l'air d'aller bien. Simplement, il n'y a pas cette pulsation, ce besoin irrépressible d'air comme quand on nage trop longtemps sous l'eau. Alors je dois forcément respirer, non ? Sauf que si t'es mort, murmure une voix venue des profondeurs, ce besoin irrépressible d'air a disparu, pas vrai ? Eh oui, des poumons morts n'ont pas besoin de respirer. Des poumons morts, ça ne sert plus à rien. Rusty, qu'est-ce que vous faites samedi soir, Doc ? Mais si je suis mort, comment puis-je avoir des sensations, sentir l'odeur du sac à viande ? Comment puis-je entendre leur voix, la toubibe qui répond que samedi soir, elle va aller faire toiletter son clébard qui s'appelle justement Rusty ? Quelle coïncidence ! Comment puis-je les entendre rire ? Si je suis mort, comment se fait-il que je ne sois pas en train de m'avancer dans la grande lumière blanche dont ils nous bassinent dans l'émission d'Opra ? Bruit soudain et grinçant de quelque chose qui se déchire. Et tout d'un coup, je suis dans la lumière blanche. Elle est aveuglante, comme lorsque le soleil apparaît sans prévenir dans une trouée de nuages en hiver. Je tente de plisser des yeux pour y échapper, mais rien ne se passe. J'ai les paupières comme 2 stores vénitiens cassés. Un visage se penche sur moi, occultant en partie la lumière aveuglante, qui ne provient pas de quelque plan astral éblouissant, mais de tout un jeu de néons. Le visage appartient à un homme d'environ 25 ans, beau gosse dans un genre conventionnel. On dirait l'un de ces protagonistes musclés des feuilletons de plage, Baywatch ou Melrose Place. Un poil plus éveillé, cependant. Il arbore sous un bonnet vert de chirurgien placé à la diable une belle tignasse noire. Il porte une blouse d'hôpital. Il a aussi des yeux d'un bleu de cobalt, de cette couleur qui passe pour faire chavirer les filles. Une poussière de taches de rousseur dessine 2 arcs, haut sur ses pommettes. « Nom d'un chien, » dit-il. C'est la troisième voix. Il ressemble vraiment à Michael Bolton, ce gars, avec un peu plus de bouteilles, peut-être ? Il se penche encore. L'un des rubans qui servent à nouer sa blouse vient me chatouiller le front. « Mais ouais, ça se voit. Hey, Michael, chante-nous quelque chose. » À l'aide. Voilà ce que je voudrais bien chanter, mais je ne peux que plonger un regard pétrifié de mort dans ses yeux bleus. Je ne peux que me demander si je ne suis pas décédé, si ce n'est pas comme ça que les choses se passent, si ce n'est pas ce qui arrive à tout le monde quand votre palpitant se met en rideau. Si je suis encore en vie, comment se fait-il qu'il n'ait pas vu mes pupilles se contracter lorsque la lumière les a frappées? Mais je connais la réponse, ou je crois la connaître. Elles ne se sont pas contractées. C'est pourquoi l'éclat des néons est aussi douloureux. Le ruban qui me chatouille le front comme une plume. « À l'aide !» criai-je à l'intention de Mister Gonflette de Baywatch, lequel est sans doute un interne, sinon un simple morveux d'étudiant en médecine. « À l'aide ! Je vous en prie !» Mes lèvres ne frémissent même pas. Le visage s'éloigne, le ruban arrête de me chatouiller et, dans mon incapacité à détourner les yeux, toute cette lumière blanche fait irruption jusqu'au fond de mon cerveau. C'est une sensation infernale, une sorte de viol. Je vais devenir aveugle, si je dois continuer à regarder encore longtemps droit devant moi, me dis-je, et la cécité sera un soulagement. Wouk ! Le bruit du driver contre la balle est moins rond cette fois, et dans ma main, la sensation n'est pas la bonne. La balle monte, mais elle s'incurve pour aller vers... Merde. Je suis dans le rough. À présent, un autre visage s'inscrit dans mon champ de vision. La blouse est blanche, et non plus verte, et surmontée d'une grande tignasse rousse désordonnée. QI à deux chiffres, telle est ma première impression. Il ne peut s'agir que de Rusty, le rouillé. Il arbore un grand sourire de crétin, un sourire de potage qui aurait... né pour dégrafer les soutifs, tatoué sur un de ses biceps de freluquet. « Michael !» s'exclame Rusty. « Bon Dieu, t'as sacrément bonne mine, si tu savais. Chante-nous quelque chose. Celle du macabre qui... » De quelque part derrière moi tombe la voix du médecin, une voix coupante qui ne fait même plus semblant d'être amusée par ses simagrées. « Arrête ça, Rusty !» Puis elle prend une direction légèrement différente. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Mike ? La voix de Mike est la première, celle de l'acolyte de Rusty. Il paraît un peu gêné de devoir travailler avec un type qui rêve d'être un imitateur du niveau d'Andrew Dice quand il sera grand. On l'a trouvé au 14e trou du golfe de Derry, pas sur le terrain, mais dans les hautes herbes du Rough. S'il n'avait pas été suivi par 4 autres joueurs, et si l'un d'eux n'avait pas vu sa jambe dépasser de l'herbe, il ne serait plus qu'une carrière de protéines pour fourmis à l'heure actuelle. J'entends de nouveau le bruit dans ma tête. Wok. Sauf que ce bruit est suivi d'un autre. Beaucoup moins agréable. Le froissement des herbes que balaie mon club de golf. Il doit forcément s'agir du 14, là où pousse, paraît-il, du sumac vénéneux. Et où l'on trouve aussi... Rusty est toujours en train de m'examiner de son air stupide et avide. Ce n'est pas la mort qui l'intéresse, mais ma ressemblance avec Michael Bolton. Ah oui, je suis au courant. Je n'ai pas eu trop de scrupules à m'en servir auprès de certaines clientes. Cela dit, ça ne marche jamais longtemps. Et dans ces circonstances, Seigneur. Le médecin de service, demande le médecin. C'était Casalian ? Non, répond Mike qui, un bref instant, baisse les yeux sur moi. Il doit avoir au moins... 10 ans de plus que Rusty, des cheveux noirs avec quelques fils argentés, des lunettes. Mais bon sang, comment se fait-il que pas une de ces personnes ne voit que je ne suis pas mort ? Il y avait un médecin dans les 4 qui suivait, reprend Mike. D'ailleurs, c'est lui qui a signé ici. Croissement de papier. Puis, bon Dieu, Jennings, je le connais. C'est lui qui a ausculté Noé quand il est descendu de l'arche. Rusty n'a pas l'air d'avoir compris la plaisanterie, ce qui ne l'empêche pas de s'esclaffer bruyamment au-dessus de moi. Son haleine dégage une puanteur d'oignon en cours de digestion. Mais si je peux détecter les odeurs, c'est que je respire, non ? Je respire forcément, si seulement. Je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de cette pensée. Rusty vient de se pencher un peu plus sur moi et je suis pris d'une bouffée d'espoir. Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose et il va me faire du bouche à bouche. Dieu te bénisse, Rusty. Dieu te bénisse, toi et ton haleine chargée à l'oignon. Mais le sourire de crétin reste vissé sur ses traits et, au lieu de poser sa bouche sur la mienne, sa main vient se glisser le long de ma mâchoire et il me prend par le menton. « Il est vivant !» s'écrie-t-il. « Il est vivant et il va chanter pour le fan club de la salle 4, le fan club de Michael Bolton. » Ses doigts se resserrent, vague douleur, comme lorsque la novocaïne cesse de produire son effet, et il se met à faire monter et descendre ma mâchoire inférieure. Mes dents s'entrechoquent.
« If she's bad, he can see it !»
chante-t-il d'une voix hideuse, atonale, qui ferait grincer des dents à un sourd profond.
« She can do no wrong !»
Ma bouche s'ouvre et se referme sous la brutale pression de sa main. Ma langue s'élève et s'abaisse comme un chien crevé sur une eau agitée. « Arrêtez ça !» lui lance le médecin. Elle paraît sincèrement scandalisée. Loin de s'arrêter, Rusty, qui l'a peut-être senti, en remet une couche. Il jubile. Ses doigts me pincent les joues. Mes yeux pétrifiés, aveuglés, regardent vers le haut.
« Turn his back on his best friend, if she puts him down... »
Elle déboule sur la scène. Une femme en blouse verte, le bonnet retenu par les cordons autour de sa gorge, mais pendant dans son dos comme le sombrero de Cisco Kid, des cheveux bruns coupés courts lui dégageant le front. C'est une femme d'une beauté sévère plutôt que jolie. Elle saisit Rusty d'une main aux ongles courts et le détache de moi. Hé, proteste le rouquin, lâchez-moi! Commencez donc par le lâcher, lui, réplique-t-elle. Pas d'erreur, il y a de la colère dans sa voix. J'en ai par-dessus la tête de vos blagues de collégien, Rusty, et si jamais vous remettez ça, je vous colle un rapport sur le dos. Et là, on se calme, intervient le costaud de Baywatch, l'assistant, si j'ai bien compris. Il paraît inquiet, comme s'il s'attendait à ce que son patron et le rouquin s'empoignent. « Allez, on oublie l'incident », ajoute-t-il. « Pourquoi elle me traite comme ça ?» demande Rusty. Le ton s'efforce de paraître indigné, mais il est en réalité geignard, puis sa voix part dans une direction légèrement différente. « Pourquoi vous me traitez comme ça ? Vous avez vos règles ou quoi ?» La toubib, dégoûtée. « Faites-moi sortir ça d'ici. » Mike, « Allez, Rusty, amène-toi. » Rusty, « Ouais, allons prendre un peu l'air. » Et moi, pendant ce temps, qui écoute tout ça comme si c'était la radio. Couinement des chaussures sur le sol, direction la porte. Le rouquin vexé, qui joue les offensés, qui demande au médecin pourquoi elle ne porte pas un truc sur elle n'importe quoi pour que les gens soient au courant qu'elle est dans ses mauvais jours. Puis le bruit atténué des chaussures est brusquement remplacé par celui de mon club, le driver, battant les buissons, à la recherche de la maudite balle. Où est-elle ? Elle n'a pas pu aller bien loin, j'en suis sûr. Alors, où est-elle, bordel de Dieu ? Je déteste le 14. Il paraît qu'il y a du sumac vénéneux, et avec toutes ces broussailles, il pourrait même y avoir... Et c'est alors que quelque chose m'a mordu, non ? Oui, j'en suis presque sûr, au mollet gauche, juste au-dessus de mes chaussures de sport blanches. Une bon Dieu d'aiguille de douleur chauffée au rouge, parfaitement concentrée tout d'abord, puis se répandant, puis les ténèbres. Jusqu'à la civière, la fermeture du sac à viande confortablement remontée jusqu'en haut, et la voix de Mike. Laquelle, ils ont dit, puis celle de Rusty, la 4, je crois, ouais, la 4. J'ai envie de me dire qu'il s'agissait d'une sorte de serpent, mais c'est peut-être seulement... parce que j'y pensais pendant que je cherchais ma balle. J'ai peut-être eu affaire à un insecte, sauf que je ne me souviens que de l'élancement douloureux, et après tout, qu'est-ce que ça fait ? Ce qui compte, c'est que je suis vivant et qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est incroyable, mais ils ne s'en rendent pas compte. Évidemment, je n'ai pas eu de chance. Je connais le docteur Jennings, je me rappelle lui avoir parlé lorsque j'avais doublé son groupe au 11e trou. Un type tout à fait gentil. Mais quelques boulons branlants, un dinosaure. Le dinosaure m'avait déclaré défunt. Et ensuite, ce crétin de Rusty, avec ses yeux verts de neuneux et son sourire à la con, m'avait déclaré défunt. La femme toubib, Mrs. Cisco Kid, ne m'avait même pas encore regardé, pas vraiment. Quand elle allait le faire, Peut-être que... Je hais cet abruti, dit-elle tandis que la porte se referme. À présent, nous ne sommes plus que trois, sauf que pour Mrs. Cisco Kid, évidemment, il n'y a que deux personnes présentes. Pourquoi faut-il qu'on m'envoie toujours les abrutis, Peter ?
Aucune idée, répond Mr. Melrose Place. Mais Rusty est un cas spécial, même dans les annales des abrutis les plus célèbres. Une mort cérébrale sur pattes, ce mec-là.
Elle rit. Il y a un claquement. Un claquement suivi d'un bruit qui me fiche une sacrée frousse. Des instruments d'acier s'entrechoquant. La doc et son assistant se tiennent sur ma gauche, et j'ai beau ne pas les voir. Je sais ce qu'ils se préparent à faire. L'autopsie. Dans une minute, ils vont m'inciser. Ils ont l'intention de retirer le cœur d'Howard Cottrell pour voir s'il a coulé une bielle ou pété un piston. Ma jambe, hurlai-je dans ma tête. Regardez ma jambe gauche, le problème vient de là, pas de mon cœur. Je me demande si mes yeux ne se sont pas un peu accommodés en fin de compte. J'aperçois maintenant, à l'extrême périphérie de ma vision, une armature en acier inoxydable. Elle me fait penser à du matos de dentiste, modèle pour géant, sauf qu'au bout ce n'est pas une roulette qu'on voit, mais une scie. De quelque part au fond de moi, d'un coin où le cerveau entrepose le genre de truc dont on a besoin que pour jouer à Jeopardy, à la télé, me revient même le nom. C'est une scie Jiggly. Elle sert à décaloter la boîte crânienne. Après qu'on vous a enlevé la figure comme un masque de Halloween, bien sûr, cheveux et tout. Et ensuite, on enlève le cerveau. Clink, clink, clank, silence. Puis un clank tellement fort que j'aurais sursauté si j'en avais été capable. « Est-ce que vous voulez faire l'incision du péricarde ?» demande la toubib. Peter, prudent, « Vous tenez à ce que je la fasse ?» Le docteur Cisco, ton charmant, comme quelqu'un qui confère une faveur ou une responsabilité. « Oui, j'y tiens. »« Très bien. » Vous m'assisterez ?
Je serai votre fidèle copilote, répond-elle avec un petit rire. Rire ponctué d'un drôle de bruit, snic snic, des lames de ciseaux s'entrechoquant en l'air. La panique se débat à présent sous mon crâne et voltige en tous sens, comme un vol des tourneaux prisonniers d'un grenier. Ne date pas d'hier, le Vietnam, mais j'y ai vu pratiquer une demi-douzaine d'autopsies sur le terrain. Ce que les toubibs appelaient alors des post-mortem de foire, et je n'ai aucune illusion sur ce que Cisco et son pancho ont l'intention de faire. Les ciseaux sont équipés de longues lames effilées, très effilées, et de gros anneaux pour les doigts. Il faut cependant être costaud pour s'en servir. La lame inférieure pénètre dans le ventre comme dans du beurre. Ensuite, snip, elle franchit la pelote de nerf du plexus solaire et atteint l'entrelac de muscles et de tendons au-dessus. Puis entame le sternum. Lorsque les lames se rejoignent, à ce stade, c'est avec un fort craquement. Lorsque l'os est coupé en deux, la cage thoracique s'ouvre comme deux tonneaux qui auraient été maintenus par un lien. Et les ciseaux, qui ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'utilisent les volaillers pour découper les poulets, continuent leur chemin. Snip crunch, snip crunch, snip crunch, broyant les os, taillant les muscles, libérant les poumons, en route pour la trachée, et transformant Howard le Conquérant en un repas de Thanksgiving que personne ne consommera. Un sifflement léger, énervant. Voilà qui ressemble à une roulette de dentiste. Peter, est-ce que je peux... Le docteur Cisco, le ton indéniablement un peu maternel.
Non.
Avec cela.
Snick, snick. Démonstration pour le jeune homme.
Peuvent pas faire ça. Peuvent pas se mettre à me charcuter. Je suis vivant.
Pourquoi ? Demande-t-il.
Parce que c'est comme ça que je veux que vous fassiez, nettement moins maternel le ton. Quand vous serez seul, maître à bord, mon petit Peter, vous ferez ce que vous voudrez, mais tant que vous serez dans la salle d'autopsie du docteur Katie Harlan, vous commencerez en utilisant les ciseaux spéciaux péricardes.
Salle d'autopsie. Ça y est. Ils l'ont dit. Je voudrais que ma peau se hérisse de chair de poule, mais, bien entendu, rien de tel ne se produit. Ma peau reste bien lisse.
N'oubliez pas, reprend le docteur Harlan, elle fait un cours, à présent, que le premier imbécile venu peut faire fonctionner une machine à traire, mais que la technique manuelle restera toujours la meilleure. je trouve quelque chose de vaguement suggestif à son ton. « Compris ?»«
Compris, » répond-il. « Ils vont le faire. Faut absolument que je fasse un bruit, un mouvement, sans quoi ils vont le faire. Si le sang coule ou jaillit au premier coup de bistouri, ils comprendront qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais il sera alors trop tard, j'en ai peur. »
Le premier snip crunch se sera produit. Mes côtes reposeront sur mes bras. Mon cœur battra follement sous les néons dans son enveloppe brillante de sang et... Je concentre toute mon énergie sur ma poitrine. Je pousse, j'essaie de pousser, et quelque chose se produit. Un bruit. J'ai émis un bruit. Il est pour l'essentiel resté dans ma bouche fermée, mais je l'ai senti dans mon nez. Un faible bourdonnement.
Concentré, puisant dans mes ultimes ressources, je recommence. Cette fois, le son est un peu plus fort et sort de mes narines comme de la fumée de cigarette. Ça me fait penser à un vieux court-métrage télé d'Alfred Hitchcock que j'ai vu il y a très très longtemps, dans lequel Joseph Cotton se retrouvait paralysé dans une voiture accidentée. Il arrivait finalement à faire savoir qu'il était encore en vie en laissant couler une unique larme. Et ce minuscule bourdonnement de moustique, à défaut d'autre chose, a eu au moins la vertu de me prouver à moi que j'étais vivant, que je n'étais pas simplement un pur esprit s'attardant dans l'effigie d'argile de son cadavre. Concentré au plus haut point, je sens un peu d'air glisser dans mon nez et dans ma gorge, un air qui vient remplacer celui que j'ai rejeté. Je souffle à nouveau, avec plus d'acharnement que je n'en mettais à travailler pour la Lane Construction Company l'été quand j'étais ado, plus que je n'en ai mis à faire quoi que ce soit de toute ma vie, parce que c'est pour sauver ma vie que je m'acharne, et il faut qu'il m'entende, mon Dieu, Seigneur, il le faut absolument.
Vous voulez qu'on mette un peu de musique ? Demande la toubib. J'ai Marty Stewart, Tony Bennett.
Le costaud des plages émet un son désespéré. C'est à peine si je l'entends, et je ne saisis pas tout de suite ce qu'implique la question du docteur Harlan. C'est probablement tant mieux.
Très bien, dit-elle en riant. J'ai aussi les Rolling Stones.
Vous ?
Oui, moi.
Je ne suis pas aussi rétro que j'en ai l'air, Peter. Je ne voulais pas dire... Il paraît sidéré.
Écoutez-moi, criai-je dans ma tête, tandis que mes yeux pétrifiés restent vissés sur la lumière d'un blanc de banquise. Arrêtez un peu de jacasser comme des pies et écoutez-moi.
Un peu d'air se glisse encore dans ma gorge et je me demande si les effets de la chose qui m'est arrivée ne commencent pas à se dissiper. Mais ce n'est qu'une lueur fugitive sur l'écran de mon esprit. Il est possible que les effets se dissipent, mais la question de la récupération, dans quelques instants, ne se posera plus pour moi. Toute mon énergie se concentre sur une chose, faire qu'ils m'entendent, et cette fois-ci, ils vont m'entendre, j'en suis certain.
« Alors, d'accord pour les Stones, » dit-elle.
« À moins que vous ne préfériez que je coure acheter un disque de Michael Bolton en l'honneur de votre première autopsie. »
« Par pitié, surtout pas, » s'exclame-t-il.
Ils rient tous les deux. Le bruit que j'émets commence à sourdre de moi, plus fort cette fois. Pas autant que je l'aurais espéré, mais nettement plus fort. Assez fort, certainement. Ils vont l'entendre. Ils ne pourront pas faire autrement que de...
C'est alors à l'instant précis où je commence à forcer le son hors de mon nez, comme quelque liquide en voie de se solidifier rapidement, que la pièce s'emplit des arpèges monstrueux d'une guitare électrique et que la voix de Mick Jagger vient rebondir sur les murs.
« I know, it's only rock and roll, but I like it. »«
Baissez ça !» et le docteur Sisko hurlant exprès pour l'effet comique, si bien qu'au milieu de tous ces bruits, mon petit suintement nasal, le bruit minuscule et désespéré qui sort de mes narines, n'est pas plus audible qu'un murmure dans une fonderie. Le visage de la toubib se penche de nouveau sur moi. Je ressens une nouvelle bouffée d'horreur en constatant qu'elle s'est affublée d'une protection en plexiglas pour les yeux et d'un masque en gaz sur la bouche. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Je vais vous le préparer, » dit-elle à Peter.
Sur quoi, elle se penche vers moi. Un bistouri lançant des éclairs dans sa main gantée se penche vers moi dans le tonnerre guitaresque des Rolling Stones. Je fredonne désespérément, mais rien à faire. Je ne m'entends même pas moi-même. Le bistouri s'abaisse et taille. Je hurle dans ma tête, mais ne ressens aucune douleur. Mon polo, coupé en deux, retombe de part et d'autre de mon buste, s'ouvrant en deux comme le fera ma cage thoracique lorsque, en toute innocence, Peter procédera à sa première incision du péricarde sur un sujet encore en vie. On me soulève. Ma tête retombe, et pendant un instant, je vois Peter à l'envers. Il est en train d'enfiler sa protection en plexiglas et se tient devant une sorte de présentoir en acier inoxydable, couvert d'une horrifique collection d'instruments. L'un d'eux me saute aux yeux. Les ciseaux géants. Je ne les aperçois qu'un bref instant, deux lames à l'éclat impitoyable de satin. Puis je retombe à plat, et mon polo disparaît. Je suis torse nu et il fait froid dans la salle. « Regardez ma poitrine » hurlai-je dans ma tête à la toubib. « Vous voyez bien qu'elle se soulève et s'abaisse, même si c'est à peine si je respire. »« Vous êtes une bon dieu de spécialiste, oui ou merde ?» Au lieu de cela, elle se redresse et se met à parler plus fort pour être entendue par-dessus la musique. « I like it, yes I do » chante les Stones. Et je me dis que je vais entendre ce foutu chorus nasillard au fin fond de l'enfer pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'on parie ? Caleçon ou slip ? C'est avec des sentiments d'horreur et de rage mêlés que je prends conscience de quoi il parle. Caleçon ! Crie-t-il à son tour. Et évidemment, il n'y a qu'à le regarder, ce type. Trou du cul ! Ai-je envie de crier. Tu t'imagines sans doute que tous les types de plus de 40 ans portent des caleçons. Tu t'imagines probablement que lorsque tu auras 40 balais, tu... Doc Cisco déboutonne mon bermuda, fait descendre la fermeture à glissière. En d'autres circonstances, qu'une femme aussi charmante, d'allure un peu sévère, d'accord, mais charmante, se livre à ce genre d'exercice me rendrait extrêmement heureux. Aujourd'hui, cependant, perdu, mon petit Pete, un slip, $1 dans le pot. Le jour de paye, répond-il en s'approchant. Leurs deux visages se rapprochent. Avec leurs masques de plexiglas, j'ai l'impression d'être observé par deux extraterrestres venant de faire un prisonnier humain. J'essaie d'attirer leur attention sur mes yeux. Je voudrais qu'ils se rendent compte que je les regarde. Mais ces deux fous admirent mon slip. Oh, oh, et rouge avec ça, commente Peter. Je dirais plutôt vieux rose, le corrige-t-elle. Tenez-le-moi, Pete. Il pèse une tonne, ce gars. Pas étonnant qu'il se soit payé une crise cardiaque. Que ce soit une leçon pour vous. Eh, je suis en pleine forme. Si ça se trouve, en meilleure forme que toi, espèce de garce. Mes hanches sont brusquement soulevées par des mains puissantes. Mon dos craque. Le bruit fait accélérer mon cœur. « Désolé, vieux, » dit Peter. Soudain, avec la disparition de mon bermuda et de mon slip, rouge et pas rose, j'ai plus froid que jamais. « Un petit peton, » chantonne-t-elle, en levant un pied. « Un deuxième petit peton pour le deuxième. » Et hop! « Adieu, mes petites choses !» Elle s'interrompt soudain. Nouvelle bouffée d'espoir. Hey, « Hé, Pete ? » ?»« Ouais ? » ?»« Est-ce que c'est courant que les types jouent au golf en bermuda et mocassin ?» Derrière elle, mais la musique ne provient pas seulement de la source, elle circule tout autour de nous. Les Rolling Stones sont passés à « Emotional Rescue ».« I will be your knight in shining armor » chante Mick Jagger. Et je me demande s'il serait aussi fringant sur son imaginaire pâle froid avec trois bâtons de dynamite dans son petit cul osseux. « Si vous voulez mon avis, ce type cherchait les ennuis, » continue-t-elle. « Il me semblait qu'il devait porter des chaussures très moches, spéciales pour le golf avec des espèces de petits crampons. « Ouais, mais ce n'est pas obligatoire, » répond Peter. Il tend ses mains gantées de caoutchouc vers ma tête. Je regarde toujours en l'air, croise les doigts, et se les étire pour bien enfoncer les gants. Ses articulations craquent, tandis que tombe une fine poussière de talc. « Du moins, pas encore, » reprend-il. « C'est pas comme les chaussures de bowling. Si on vous prend sur la piste sans les chaussures spéciales, ils sont capables de vous envoyer en prison. C'est pas vrai, si, si. Voulez-vous vous occuper de la température et de l'examen général ?» Une fois de plus, je hurle « Non !»« Ce n'est rien qu'un gosse, vous pouvez pas lui laisser faire ça !» Il la regarde comme si cette même pensée lui avait traversé l'esprit. « Ce n'est pas la procédure légale, n'est-ce pas, Katie ? Je veux dire, Elle regarde autour d'elle pendant qu'il parle, faisant semblant de vérifier qu'il n'y a personne dans la pièce, et je commence à percevoir des vibrations qui pourraient ne rien présager de bon pour moi. Mine sévère ou pas, la chère Cisco, alias Dr. Harlan, en pince pour petit Pete et ses beaux yeux bleus foncés. Bon Dieu de merde. On me tire paralysé du terrain de golf pour me jeter direct dans un épisode de General Hospital, un épisode dont le titre serait « Naissance d'une passion en salle d'autopsie 4 ». Elle prend un timbre rauque comme une comédienne faisant semblant de murmurer sur scène. « Et je ne vois personne à part vous et moi. Mais l'enregistrement, je ne l'ai pas encore branché. Et de toute façon, je serai toujours à vos côtés pour ce que les autres en sauront. D'ailleurs, ce sera presque tout le temps le cas. Je voudrais simplement en terminer avec le classement des graphiques et des diapos. Pourtant, si vous vous sentez vraiment trop mal à l'aise, oui, je crie tant que je peux sans que mon visage ne bouge d'un poil. Il se sent mal à l'aise, très mal à l'aise, trop mal à l'aise. Mais il a tout au plus 24 ans. Alors qu'est-ce qu'il va répondre à cette belle femme, bien qu'un peu sévère, qui se tient aux limites de son espace privé, l'envahissant d'une manière qui ne peut signifier qu'une chose. « Non, maman, j'ai peur ?» Sans compter qu'il ne demande que ça. Je vois le désir à travers sa protection plexiglas, sautillant en tous sens comme une bande de punks ringards sur leur pogo au rythme des Stones. « Oh, tant que vous me couvrez si... »« Bien sûr, » dit-elle. « Il faut savoir mouiller le maillot, Peter. Et s'il faut aller jusque-là... » On peut toujours effacer l'enregistrement. Il n'en revient pas. Vous pourriez faire ça ? Elle sourit. Nous, ça font beaucoup de secrets en salle d'autopsie, gâtre, mein Herr. Ça ne m'étonne pas, répond-il avec un sourire. Sa main disparaît de mon champ de vision pétrifié. Lorsqu'elle revient, elle tient un micro qui pend du plafond au bout d'un cordon noir. Le micro lui-même a l'air d'une larme d'acier. Le voir ainsi suspendu donne encore plus de densité à l'horreur que je ressens. Ils ne vont tout de même pas me charcuter, si ? Peter n'est pas un vétéran, d'accord, mais il doit avoir tout de même un minimum de formation. Il ne pourra pas ne pas voir les marques de ce qui m'a mordu pendant que je cherchais ma balle dans le rof. À ce moment-là, ils soupçonneront bien quelque chose. Il faudra qu'il soupçonne quelque chose. Je n'en continue pas moins à voir les ciseaux avec leur impitoyable éclat satiné. Ces ciseaux à volaille améliorés, sans pouvoir m'empêcher de me demander si je serai encore en vie lorsqu'il me retirera le cœur de la poitrine et le tiendra dégoulinant devant mon regard figé avant de le laisser tomber sur le plateau de la balance. Ça n'est pas impossible, voilà ce que je me dis, pas impossible du tout. Il paraît que le cerveau peut rester conscient pendant encore 3 minutes, après un arrêt cardiaque. « Prêt, docteur ?» dit Peter, prenant un ton presque officiel. Quelque part, l'enregistrement a dû démarrer. La procédure de l'autopsie vient de commencer.